Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur IDFM Radio, 10h30, c'est votre émission Au cœur de l'assaut qui commence. Toutes les semaines, on reçoit une association du Val d'Oise et d'Île-de-France, quel que soit le champ d'action. L'idée est de vous les présenter et de leur donner la parole à l'antenne. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Gallet, venu nous présenter l'association Opelia. Alors, je ne sais pas si on dit Opelia Charonne.
Oui, c'est une fusion de deux assos.
Donc, l'association Opelia Charonne. Alexandre, qui est éducateur spécialisé au sein de cette association. Et il est venu aujourd'hui nous expliquer quel est le fonctionnement de cette association et surtout qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain tous les jours, quotidiennement, entre autres à Paris, mais aussi dans toute la région Île-de-France. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Comment ça va ?
Super.
Galère dans les transports.
Les grèves, oui.
Galère dans les transports, mais tu es arrivé à bon port.
Tout à fait.
Et entier. Écoute, bienvenue au micro d'IDFM. Le but de cette émission, c'est vraiment de faire découvrir aux auditeurs les associations actives au sein de notre région. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler d'Opelia Charonne. Donc Opelia Charonne, une association qui œuvre dans la prévention des différentes addictions qui peut exister, prévention
et
accompagnement. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, nous expliquer un peu ton parcours, qui tu es et comment tu es entré dans la vie de cette association ?
Alors Alexandre Gallet, éducateur spécialisé maintenant depuis 3 ans, dont 2 ans au sein de l'association Opelia Charonne. J'ai commencé mes études d'EDUCSP et je me suis tout de suite orienté vers l'addicto. C'est un domaine qui m'intéressait particulièrement. J'ai donc eu la chance d'intégrer, grâce à des connaissances, un stage chez Kairos, qui est un centre thérapeutique résidentiel sur Andrézy, qui permet en fait à des personnes de faire une post-cure. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir tout le champ de l'addicto. Et j'ai notamment rencontré le docteur Alain Morel, qui est le directeur de l'association Opelia Charonne, enfin Opelia. Et je me suis tout de suite dit que c'était dans ce domaine que je souhaitais intervenir.
Et c'est ce que tu fais aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc tu as intégré l'association il y a combien de temps à peu près en tant que salarié
Il y a 2 ans, pendant le Covid.
Oui, donc pendant le Covid, je suppose que vous avez eu beaucoup de travail. On en parlera, mais peut-être que ça a été une période un peu compliquée.
Oui, très compliqué.
Pour ce type d'association. Alors, explique-nous rapidement depuis combien de temps existe cette association et de quel constat, en fait, elle est née, pourquoi elle a été créée.
Alors, la toute première boutique, on appelait ça boutique à l'époque, est née en 92, dans le 18e. Et c'était un lieu, un environnement qui était très ancré dans le trafic et la prostitution. Donc, vraiment... un gros problème
à ce niveau-là, dans ce domaine. Quoi.
Beaucoup de crack. Nous, on s'occupe spécialement du crack et aussi trafic de médicaments, tout ce qui est benzodiazépines. Et en fait, il n'y avait pas de... C'était mixte.
Oui.
Mais très vite, les éducateurs, l'association se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes à cause de cette mixité. Beaucoup de femmes se faisaient racketter, violenter. Donc ça a posé de gros problèmes en termes de fonctionnement. Du coup, en 1995, l'association a acheté des locaux juste à côté pour permettre
un temps spécial. Séparer les hommes et les femmes, peut-être ?
Tout à fait. Et seulement en 1997, il y a eu des fonds pour dédier vraiment une équipe pour les femmes. C'est-à-dire qu'en 1995... l'équipe mixte fermait juste pour faire un temps avec les femmes. Et en 97, il y a eu une équipe vraiment dédiée à cette spécificité.
Et du coup, vous vous occupez aussi des hommes ou spécialement que des femmes aujourd'hui ?
Alors, au sein de ma structure, moi, oui, que des femmes.
Que
c'est
des femmes.
L'espace femmes.
Mais l'association...
c'est mixte.
C'est mixte.
Tout à fait.
Vous avez fait des pôles, en fait...
différents. Oui.
Différents pour les hommes et les femmes. Alors... Une question, quand on peut commencer à parler d'addiction ?
C'est une vaste question, ça dépend vraiment des personnes. Mais disons que quand le produit, la consommation, entraîne par exemple des vols, une perte d'estime de soi, des problèmes avec le travail, avec la famille, là on peut parler d'addiction. C'est vraiment quand le produit a vraiment une emprise, quand les pensées sont constamment affectées par l'envie de consommer, là, on peut parler d'addiction.
Alors comment vous êtes, donc tu as un peu répondu à la question, mais comment vous êtes organisé en interne? Est-ce qu'il y a différents services? Est-ce qu'il y a différentes structures?
Tout à fait. Alors il y a plusieurs choses. Donc il y a Clignancourt, le 18e, où là c'est vraiment un public, on va dire, migrant, consommateur de... surtout de benzodiazépines, de ces produits-là pharmaceutiques.
Donc ça, c'est des médicaments ?
C'est des médicaments,
c'est du trafic de médicaments qui...
Oui, beaucoup.
Ouais.
Beaucoup. Après, nous, dans le 10e, il y a du coup deux autres structures. Il y a l'espace femmes qui s'occupe principalement, enfin, que des femmes. Mmh. Et à côté, l'espace mixte qui accueille les deux, mais principalement des hommes.
Et aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes ou c'est équivalent ?
Non, il y a beaucoup plus d'hommes.
Beaucoup
on va
plus
dire
d'hommes.
Sur un 85% d'hommes pour 15% de femmes.
De l'extérieur comme ça, est-ce que on peut peut-être dire que tout le monde peut avoir une addiction finalement? Est-ce qu'il y a un terrain, on va dire, privilégié pour les personnes qui deviennent addictes de substances? Ou est-ce que tout le monde vraiment, quel est le profil? Est-ce que tout le monde peut devenir addict?
Alors c'est une question assez compliquée, c'est même philosophique, parce que nous dans l'association on peut parler de société addictogène, comme quoi on est tous addicts,
oui.
À plein de choses, ouais. Les réseaux sociaux, le
cigarette.
Sucre, la cigarette, ça peut être très vaste. Après, on peut être addict et heureux, du moment que ça n'a pas d'influence néfaste sur notre vie. Mais en tout cas, pour notre public, c'est un public très précarisé. Donc des personnes qui vivent, pour mon compte, des femmes qui vivent dans la rue, avec de la prostitution, beaucoup de violence, beaucoup aussi de problèmes psychiatriques. Que ce soit lié aux produits ou lié aux différents traumatismes.
Mmh. Quelle solution, quelle réponse vous apportez à toutes ces femmes en détresse, en tout cas dans ton service, puisque tu t'occupes de femmes?
Tout à fait.
Quelle solution concrète vous leur apportez?
Alors déjà un lien social, évidemment, la communication, l'échange. Et puis on a différentes choses. On a par exemple le lundi une podologue qui permet d'avoir une meilleure estime de soi, de prendre soin de son corps. Donc se réapproprier son corps, qui est une chose importante. On a aussi le vendredi, une socio-esthéticienne. Donc tout ce
toujours
qui
dans
est
le paraître.
Toujours dans la... Oui, c'est ça, dans l'estime,
l'estime
de soi.
L'estime de soi.
Tout à fait. On a aussi la psychobox, qui est une activité de self-défense. On a la chance d'avoir un psychologue qui fait des arts martiaux. Et il mélange les deux, la psychologie et les arts martiaux. Donc beaucoup de self-défense et après un temps pour échanger sur la violence qu'elles peuvent subir.
Donc en réponse médicale, on va dire, est-ce que vous faites une réponse? Vous travaillez avec sûrement des professionnels de la santé?
Tout à fait. On a aussi une infirmière à mi-temps et une médecin généraliste le jeudi.
D'accord. Donc là, comment prendre en charge, comment peut-être se détacher de telle ou telle drogue? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'il y a un planning, un programme? Elle commence peut-être à réduire doucement, un peu comme la cigarette.
Alors, pas vraiment. Disons qu'on est dans une optique où si elle souhaite réduire la consommation ou arrêter, on va les accompagner, mais on ne va pas, on va dire, on va pas les forcer à arrêter. Si la demande vient d'elle, on va les aider, on va les accompagner pour cela, mais on ne sera pas forcément dans l'injonction, on va dire, d'arrêter la consommation.
Oui, c'est pas un endroit où on fait du sevrage finalement,
non.
Où c'est pas une clinique comme on appelle de désintox.
Non, pas du
tout. Pas du tout. C'est plus la vie quotidienne, reprendre une vie normale, les accompagner dans l'estime de soi.
Tout à fait. Surtout les démarches sociales, on en fait énormément.
Donc okay. Tout ce qui est. Donc ça peut être quoi? Recherche de travail, carte vitale.
Exactement. RSA, RSA, AME. Recherche de travail.
D'emploi, de logement peut-être.
Aussi, oui. Énormément, beaucoup de recherche de logement. Donc, on passe par le SIAO, qui est, on va dire, le système informatique qui permet de gérer les logements, on va dire. Donc, on fait la demande, on remplit les démarches nécessaires et on attend.
Et alors, et c'est compliqué?
C'est très compliqué. Il y a beaucoup de demandes.
Beaucoup de demandes.
Tout à fait.
Sur Paris.
Oui, énormément.
Alors comment ces femmes viennent à vous finalement? Parce qu'il faut déjà avoir un certain recul pour se dire « Ok, je suis addict » et accepter cette situation, je pense. Comment elles font le premier pas?
C'est compliqué. Le plus souvent, c'est du bouche à oreille. Mais pour notre activité, essentiellement, on fait de l'aller-vers, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre.
Donc vous allez sur le terrain, vous allez les chercher.
Tout à fait.
Entre guillemets, ou vous faire, voilà, vous faire connaître.
On a distribué quelques prospectus, discuter. Donc on fait beaucoup, oui, c'est ça, l'aller-vers pour créer le contact, le premier lien.
Et ça fonctionne ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce que souvent, elles sont renfermées, ces personnes-là, elles souhaitent pas parler de leurs problèmes ou elles sont dans leur confort de consommation, de consommatrice.
C'est vrai, comment ça, peut ça être se compliqué. Fait bah, surtout là, l'actualité, on va dire, avec Forceval, à Porte de la Villette, on y était beaucoup. Et c'est vrai que ça peut être compliqué.
Donc pour rappeler aux auditeurs, c'est un camp finalement de comment on peut appeler ça, de consommateurs de drogue qui a été démantelé
tout à fait.
Et repoussé, je crois, sur Aubervilliers, il me semble.
Pour l'instant,
un peu partout, le problème déplacé, mais
c'est
pas compliqué. Résolu.
Ouais. Pour l'instant, pas résolu, mais bon, on a l'habitude, ils ont déjà fait ça pour Stalingrad, oui. Pour le parc Éole, les déménagements.
Le but, c'est d'évacuer un peu Paris, quoi.
Voilà, mais sans solution
derrière. Donc qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme solution pour ces gens-là, justement comment on peut les réintégrer en société ? Il y a votre association qui œuvre beaucoup, d'ailleurs. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là ?
Il y a plusieurs choses, on va dire. Déjà, d'avoir un certain regard aussi vis-à-vis de ces personnes. C'est pour la plupart des femmes qui souffrent, qui ont un passé difficile, qui sont parfois prises dans la consommation et dans beaucoup, beaucoup de violence. Donc c'est quelque chose de difficile. Nous, dans notre action, on va dire, c'est régler tout ce qui est démarche administrative pour que tout soit au clair. Et on peut, par exemple, bénéficier de DPH, dispositifs premières heures, qui en fait sont des petits emplois avec des... C'est une courte période. C'est de quelques heures en semaine et ça les permet en fait de les réinsérer
dans la vie professionnelle, leur redonner en tout cas les règles de base, arriver à l'heure.
Exactement. Et l'envie aussi.
L'envie, ouais. Il y a un petit salaire au bout, je
bien
suppose.
Sûr.
Alors comment vous faites justement pour leur trouver ce travail ? Est-ce que les professionnels sont un peu réticents à prendre ce genre de profil ? Est-ce qu'ils sont au courant déjà que c'est des personnes qui sont addictes ?
Alors, pour ces dispositifs-là, oui, ils sont au courant.
D'accord.
Ils sont même à la recherche, on va dire, de ce genre de profil. Par contre, pour ce qui est plus professionnel, on va dire, on évite d'en parler, on va dire. On
ouais.
essaie de faire bonne figure, de donner une bonne image. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Alexandre Gallet, qui est éducateur spécialisé au sein de l'association Opelia Charonne, donc qui est située sur Paris, mais aussi en région parisienne. Peut-être
oui,
qu'on pourra,
toute la France,
qu'on pourra
même.
Toute la France, on pourra en parler en seconde partie. Donc, une association qui œuvre dans la prévention et l'accompagnement des addictions. On va marquer une courte pause avant de reprendre la découverte de cette association. On écoute Moi, c'est Camélia Jordana, Amel Bent et Vita sur IDFM Radio.
Pourquoi tu dis rien ? Pourquoi tu dis rien encore ? Vas-y, raconte-moi ton histoire. Dis, j'entends pas bien, parle un petit peu plus fort. Montre-moi tout ce que j'aimerais voir. Hey, arrête la folie, et arrête la folie, et fais voir un peu. Hey, arrête la folie, et arrête la folie, et fais-en un vœu. Pourquoi c'est tout comme ça jusqu'au bout, et pourquoi c'est toujours trop court? Parle-moi tout d'un coup, même un petit peu beaucoup, et pourquoi c'est toujours mon tour? Hey, arrête la folie, et arrête la folie, et fais voir un peu. Hey, arrête la folie, et arrête la folie, et faisons un vœu. Je veux, moi c'est Camélia, mais toi tu le dis jamais. Encore un peu et je me tais. Moi c'est Camélia, toi je sais pas qui t'es. Encore un peu et je m'en vais. Quand tu ris j'adore, quand je ris aussi j'adore. Pourquoi t'as changé le décor? Pourquoi c'est comme ça plutôt que le cinéma? Et pourquoi t'es jamais raccord? Mmh. Hey. et fais voir un peu. Hey, arrête la folie et arrête ta folie et faisons un peu. Je veux, moi c'est comme.
Vous écoutez IDFM Radio, au cœur de l'asso jusqu'à 11h aujourd'hui, Zoom sur l'association Opelia Charonne, une association qui œuvre pour l'accompagnement et la prévention en addictologie. Pour en parler, Alexandre Gallet est avec nous ce matin. Alexandre qui est éducateur spécialisé au sein de cette association. Alors on a parlé un peu de votre champ d'action, hein, que vous faisiez énormément de choses pour les femmes, en tout cas dans ton service, les femmes qui étaient addictes à différents produits. Je me posais la question justement, est-ce qu'il y a un produit plus grave qu'un autre ?
Privilégié.
On parlait des femmes qui souhaitaient reprendre une activité professionnelle. Est-ce que vraiment il y a des produits qui ne permettent pas la reprise d'une vie normale tant qu'on n'a pas été sevré en tout cas ?
Alors nous, notre produit le plus consommé au sein de notre structure, c'est le crack. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de crack, c'est essentiellement ça. Et je dirais en deuxième position, enfin pas très loin, l'alcool.
Oui.
L'alcool est très, très présent. Et le problème avec l'alcool, c'est que pour se sevrer, c'est très compliqué. Je pense que c'est le plus difficile.
Ah oui.
C'est très, très compliqué. Et puis le sevrage doit se faire obligatoirement avec un professionnel, parce qu'il y a un risque de décès.
Avec si on arrête l'alcool
tremens, ah oui. Si on se décide de se sevrer à l'alcool, il faut obligatoirement un accompagnement médical.
Il faut que le corps soit peut-être se prépare à...
C'est ça, tout à fait. Donc pour moi, l'alcool est vraiment un gros problème.
Oui, parce que ça joue sur le comportement, on l'a dit.
Aussi, il faut consommer,
sur la
sinon tremble.
La lucidité, alors difficile de reprendre un travail dans ces cas-là. C'est vrai que le crack, est-ce que ça se voit quand une personne est sous emprise de cette drogue ?
Tout dépend quelle quantité la personne a prise, mais nous, en tant que professionnels, évidemment,
vous
on le voit tout de suite. Et puis, ça peut beaucoup faire décompenser le crack. Il peut y avoir des épisodes de paranoïa, des épisodes très violents, très délirants. Donc c'est vrai que ça peut faire peur. La folie fait peur en général. Et il y a des personnes en tout cas qui sont insérées et qui consomment du crack. C'est souvent, on dit la drogue du pauvre, le crack,
oui.
La cocaïne du pauvre, qui est de la cocaïne, justement le crack, qui est basé. On peut avoir une activité professionnelle en consommant du crack, mais tout dépend, on va dire, l'emprise du produit sur la personne. Alors que l'alcool, ça va être très, très compliqué, au bout, bien sûr, d'un certain stade, on va dire, d'alcoolémie, d'alcoolisme.
Oui, alors c'est vraiment... J'allais dire c'est drôle, mais c'est pas drôle, parce que l'alcool, c'est légal.
C'est banal, c'est banalisé.
C'est banalisé, on en trouve partout... C'est ça, donc c'est grave quand même de mettre à disposition une drogue comme, enfin une drogue, oui,
oui
c'est une drogue comme celle-ci. Le crack, c'est pas autorisé. À quel moment on fait le poids du bénéfice risque, je peux pas parler comme ça d'une drogue, mais on vend de l'alcool, c'est accessible à tous, on va en supermarché, on en trouve.
C'est une question d'histoire, je pense,
oui.
Parce que, à titre personnel, on va dire, si l'alcool avait été inventé il y a 10 ans, je pense que ce serait interdit par la loi.
Oui, c'est ça. C'est,
c'est qu'il y a bien sûr toute une histoire derrière, il y a le poids de la société, aussi des lobbies peut-être.
C'est ça.
C'est un tout.
C'est un tout, oui.
Alors que le crack, c'est vraiment... les pauvres.
Parce que c'est plus difficile de trouver du crack que... Enfin, en tout cas, je pense que c'est plus compliqué de trouver du crack que de l'alcool.
Oui, bien sûr. Il suffit d'aller à Intermarché et on en trouve.
Et en termes de... Bon, j'aime pas trop dire ça, mais en termes de quantité de personnes sauvées, entre guillemets, ou de retours positifs sur vos actions, par exemple, sur une année, est-ce qu'on peut se dire, voilà, sur une année, on arrive à réinsérer tant de femmes ? Est-ce que vous avez une idée ?
J'en ai aucune idée. Tout dépend ce qu'on donne comme définition à insérer. Pour nous, si la personne a, on va dire, sur un constat de base, elle est arrivée, elle était sans papier, elle est française, mais sans papier, pas de logement, dénutrie, avec peu d'estime, peu de confiance en elle, à la rue, pour nous, notre travail, si on a fait toutes les démarches, on a eu tous les papiers, on a réussi à lui trouver un logement, pour nous, c'est une bonne voie
oui.
pour l'arrêt ou la diminution de la consommation.
Ouais, donc toi, tu disais, vous incitez pas, en tout cas, à arrêter les femmes qui viennent, arrêter de consommer de la drogue aux femmes qui viennent à votre rencontre. Mais est-ce que vous avez pu avoir des femmes qui s'en sont sorties, qui sont aujourd'hui sevrées totalement, qui reviennent vous voir peut-être ?
Oui, bien sûr, il y a des femmes qui ont réussi à s'en sortir. Très difficilement, évidemment. Mais oui, il y en a quelques-unes qui...
Ça donne de l'espoir, en tout cas.
Bien sûr, bien
c'est
sûr.
Bien, enfin, c'est bien de le souligner.
Oui.
Qui ont repris une vie normale, peut-être qui ont fondé une famille, qui travaillent, non c'est...
Très souvent, c'est des femmes, on va dire, d'une quarantaine d'années.
Ouais.
Elles sont plus trop, on va dire, dans la démarche de fonder une famille, de se projeter aussi loin. Elles ont un peu plus de mal, on va dire. Elles font un peu plus au jour le jour, d'essayer vraiment de se sentir bien déjà avec elles. Plutôt que de fonder une famille.
Oui.
Et puis souvent, déjà, parfois, elles ont déjà eu des enfants qui ont été placés, évidemment. Donc, ça va être surtout, en fait, d'essayer de renouer le lien avec cet enfant qui a été placé, qui est chez la famille, même si la relation peut être difficile avec la famille. Donc, ça va être plus de retrouver un lien.
Est-ce que tu as une idée sur le nombre de femmes qui fréquentent, peut-être pas toute l'association, mais qui fréquentent en tout cas ton pôle à toi ?
Alors, il y en a à peu près 180 à 200 femmes par an en moyenne.
Toujours des nouvelles personnes ou c'est souvent...
Il y a un peu de tout.
Il
y a un peu de tout. On a d'habitués et il y a des nouvelles têtes qui arrivent.
Ouais. Et donc aujourd'hui, alors l'objectif de l'association, c'est quoi ? Est-ce que vous avez des besoins particuliers ?
Oui. Dans l'idée, ce serait de développer nos partenariats, histoire de nous faire connaître, si on peut nous apporter de l'aide aussi à des autres associations qui ont des femmes et qui ne savent pas forcément aussi gérer, quoi faire, qu'on puisse les aider et aussi qu'on puisse, que leur service puisse nous apporter aussi quelque chose.
Oui.
Par exemple, de la coiffure, des activités, ça peut être...
Oui, donc peut-être à la recherche de personnes qui soient qui puissent venir vous aider concrètement sur des ateliers, par exemple.
Tout à fait, oui.
Ça peut être atelier, comme tu l'as dit, coiffure. Bon, manucure, pédicure, vous avez ce qu'il faut, je crois.
Oui, on a
Mais c'est
ce
toujours
qu'il faut.
Bon, peut-être, de développer un autre créneau.
Oui, tout à fait. Ou des activités artistiques, musicales. Tout est bon.
Tout est possible, en tout cas. Vous avez des locaux ?
Oui, on a
vous
des
êtes
locaux.
Situé où ?
Alors, moi, l'association Espace Femmes, elle est située au 3 boulevard Magenta.
OK.
Qui est sur deux étages. On a la chance d'avoir comme des beaux locaux avec une salle de repos pour les femmes qui souhaitent se reposer parce que c'est des femmes, par exemple, qui peuvent consommer 4 jours, 4 nuits d'affilée et se retrouver complètement HS au bout du 4e jour. On a une laverie. Des douches. Un coin repas où on sert le petit déjeuner. Et on a aussi une salle d'activité qui nous permet de réaliser différents ateliers.
Et donc, vous êtes subventionné ?
Oui.
Vous marchez vous fonctionnez avec des subventions. C'est la mairie de Paris qui vous met à disposition les locaux, qui vous subventionne ?
Alors, les locaux ont été achetés par l'association, mais on est financé par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé.
Ok, donc vous êtes quand même reconnu par les professionnels de la santé.
Oui.
Et donc, vous êtes partout en France.
Alors, Charonne est historiquement sur
Paris. Lié à Paris, forcément.
Et Opelia est partout en France, ce qui permettait en fait cette fusion de couvrir l'ensemble du territoire.
Et alors, comment on fait pour retrouver toutes les informations, pour retrouver peut-être les différents lieux
Sur Opelia, sur Opelia. Le site
opelia.fr.
Tout à fait.
Donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Alexandre Gallet, qui est éducateur spécialisé, qui nous a parlé aujourd'hui de l'association Opelia Charonne, donc une association qui œuvre pour l'accompagnement et la prévention des addictions. Alors lui, il est spécialisé plus pour les femmes, on va dire. Reprise de confiance en soi, peut-être une vie sociale aussi, leur permettre d'avoir une vie sociale, plus d'estime de soi à travers des ateliers.
Oui, et les démarches, beaucoup de démarches administratives.
Les démarches administratives, oui, ça je pense que ça doit être peut-être le plus important de ton job.
Tout à fait.
Alors toujours avec des difficultés, on a parlé du logement, c'était compliqué de trouver en tout cas des logements pour ces personnes-là, mais vous arrivez à leur trouver des petits jobs. Et ça, c'est cool.
On essaye. C'est difficile, mais on essaye.
Dernière question. Je ne sais plus ce que je voulais te demander. Ah oui, on parlait de formation hors antenne.
Oui.
Donc, dans quel cadre vous intervenez-vous dans la proposition de formation? Qui est-ce que vous formez? Et quel type de formation vous proposez?
Alors, moi, je ne suis pas très au courant des formations. Je ne m'occupe pas trop de ça. Je sais que, par exemple, que ma chef de service peut intervenir en milieu scolaire ou... des écoles chez des personnes d'une vingtaine d'années, on va dire, en école de formation, je ne sais pas si on peut le dire, qui proposent en fait des ateliers et une explication de qu'est-ce que l'addiction.
Comment reconnaître une personne addicte, peut-être quels sont les premiers mots à lui...
Voilà, et bien identifier qu'est-ce que l'addiction, qu'est-ce que certains produits, comment ils agissent.
Oui. Donc là, c'est plus, on va dire, en termes de prévention chez les jeunes. Attention, les jeunes peut-être un peu plus consommateurs que les... Enfin, ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Quels sont les tranches d'âge, on va dire, le pic Là aussi, question vaste. Est-ce qu'il y a des âges de prédilection de l'addiction?
Alors, je fais aussi de la prévention en milieu festif.
Rêve party.
Oui, soirée électro, soirée LGBT... Et évidemment, je constate qu'il y a énormément de consommation. C'est pourquoi on est là. Beaucoup de consommation. En ce moment, j'ai remarqué beaucoup de consommation de cocaïne, énormément de cocaïne. Ça revient fort à la mode.
Et pourquoi? Parce que le prix a chuté ou parce que...
C'est un peu moins cher, en effet.
Ouais.
Et puis, peut-être effet de mode, on va dire, effet de groupe. Beaucoup MDMA, ecstasy. Et beaucoup en ce moment, la 3MMC, qui est un peu la nouvelle drogue à la mode, produit de synthèse, qui ressemble à la cocaïne. Donc, on peut mélanger, sauf que les effets sont beaucoup plus puissants et les risques de overdose plus grands aussi.
Oui, donc attention à toutes ces drogues. Ne pas toucher du tout, ne les regarder même pas, si c'est un message qu'on peut faire passer. On arrive à la fin de l'émission.
Oui.
Alexandre, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un point ou un sujet qu'on n'a pas abordé avant de se quitter?
Juste une petite précision. Aussi, une grosse partie de notre travail, c'est de fournir aussi du matériel pour consommer. Pour mieux consommer, on va dire, pour que la santé ne se délite pas. C'est-à-dire, en ce qui concerne le crack, ce qui est des principaux produits consommés, on fournit ce qu'on appelle des kits base, qui est en fait des tubes en pyrex avec des embouts interchangeables et un filtre.
Et comment ça se fait que vous distribuez ce type de...
Alors, on pourrait penser que c'est comme une incitation, on va dire.
C'est ça.
Mais c'est de la prévention. Parce que, en fait, comme par exemple pour les seringues, avec la distribution de seringues, ça permet d'éviter que leur santé se dégrade.
La transmission de virus aussi, peut-être.
Tout à fait.
Et on parlait aussi du Covid. Alors, cette année qui a été un peu, peut-être, très difficile pour vous.
Oui, en effet, c'était très difficile pour nous, étant donné qu'on est un accueil collectif. Donc, il y a une certaine convivialité.
Proximité.
Une proximité forte, où on échange, on est en informel, on est proche.
Oui, et puis c'est un peu la base de ce que vous faites, finalement.
Oui, oui, ça a complètement dénaturé, on va dire, notre travail. Du coup, on faisait que des accueils individuels ou en très petits groupes.
Bon, vous continuez en tout cas quand même, et puis c'est l'important. Il y a beaucoup d'associations qui ont totalement arrêté de fonctionner.
Oui, pour nous, c'était impensable d'arrêter. Il fallait quand même continuer nos activités, que ce soit par l'accueil ou alors aller vers les personnes dans la rue.
Merci beaucoup Alexandre Gallet, éducateur spécialisé au sein de l'association Opelia Charonne, basée à Paris, mais il y en a dans toute la France. Je vous invite à aller voir le site internet opelia.fr, donc une association quand même qui fait de la prévention et de l'accompagnement autour de toutes les addictions auprès des femmes et des hommes, on peut le dire. Merci Alexandre.
Merci.
Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission sera disponible en replay, en podcast sur idfm98.fr. Belle journée à tous.